Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Benjamin Netanyahou ordonne l'arrêt immédiat de toute procédure législative ou judiciaire pour permettre l'annexion des territoires de Judée-Samarie, de Cisjordanie. Il réagit rapidement après la très forte réprobation de l'administration de Donald Trump. Hier, un projet de loi, on en parlait avec Dror, notre correspondant, a été voté à la Knesset qui lançait purement et simplement l'annexion des territoires de Judée-Samarie, et il n'en est pas question. Donald Trump a affirmé que les relations avec le monde arabe reposent sur des engagements, et il dit, donc Donald Trump, cela n'arrivera pas, une telle décision mettrait fin au soutien des États-Unis à Israël. Et donc Benjamin Netanyahou a immédiatement tiré les conclusions de cette mise en garde. La répression du Hamas dans les territoires se poursuit. Des Gazaouis sont détenus dans des centres de détention souterrains. Israël Hayom, le journal, révèle que l'essentiel de cette action est mené par l'unité SAAM, qui compte un millier d'hommes, donc affectés uniquement à la répression de la population gazaoui. Selon plusieurs sources sécuritaires, le Hezbollah a repris la production de missiles de précision et de longue portée, et il concentre désormais l'essentiel de ses activités au nord du fleuve Litani, c'est-à-dire loin de la frontière avec Israël. Et d'ailleurs, c'est ce que souhaitait Israël, que le Hezbollah se concentre dans des zones qui soient plus éloignées de sa frontière. Mais bon, le Hezbollah reprend quand même la production d'armes offensives. L'Iran met en garde contre toute action militaire après les déclarations du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui a évoqué la crainte d'un possible recours à la force en cas d'échec diplomatique. Après l'avis de la Cour internationale de justice, Israël confirme que l'UNRWA ne remettra pas les pieds à Gaza. La Cour internationale de justice affirmait qu'au contraire, cette agence de l'ONU devait revenir dans le territoire côtier. Et puis un grave accident de la route s'est produit sur la route 90, près du carrefour de Hametz Oudot. 15 blessés, selon le Magen David Adom. On part tout de suite pour Jérusalem, où l'on retrouve notre correspondant permanent, Dror Even Sapir. Bonsoir, Dror.
Bonsoir.
Donc, Benjamin Netanyahou, qui est un homme d'expérience, a immédiatement mis fin au projet de loi pour l'annexion des territoires de Judée-Samarie. Trump a dit, ni plus ni moins, vous faites ça, j'arrête de soutenir Israël.
Oui, il faut rappeler, on en avait parlé, il me semble, hier, que ce projet de loi qui n'a été il en fallait trois autres votes pour qu'il soit inscrit dans le livre des lois israéliens. Et bien, ce projet de loi n'avait pas l'assentiment de Benjamin Netanyahou. Il a été voté grâce à plusieurs députés d'extrême droite, certains députés de partis religieux, et également avec l'appui d'une des formations de l'opposition, le parti d'Avigdor Lieberman, qui siège dans l'opposition, mais qui est idéologiquement un parti très nettement ancré à droite. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a décidé de sanctions contre le seul député Likoud qui avait voté en faveur, à savoir l'ancien président de la Knesset, l'ancien président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, à savoir Yuri Edelstein. Donc, Benjamin, cet épisode avait échappé en quelque sorte au contrôle du Premier ministre, et les termes employés par les responsables américains, notamment le premier d'entre eux, sont on ne peut plus clairs, puisque Donald Trump a affirmé que, en effet, Israël perdrait tout le soutien américain si il venait à annexer les territoires de Cisjordanie ou de Judée-Samarie. Et le président américain a ajouté qu'il avait promis à ses alliés arabes, notamment du Golfe Persique, qu'Israël n'envisagera aucune annexion de territoire. Le vice-président américain J.D. Vance, qui a quitté le pays aujourd'hui après une visite de 2 jours en Israël, a eu des termes peut-être encore plus rude, puisque il a affirmé qu'il avait été surpris, voire même vexé par ce vote. Un vote qu'il a qualifié de stupide. En tout cas, il a considérer que si ce vote avait été effectué pour des considérations politiciennes, eh bien, c'était une démarche absolument stupide. Ce sont les termes du vice-président américain, vice-président d'une administration américaine dont on considère à juste titre, d'ailleurs, qu'elle est l'une des plus proches d'Israël. Concernant les responsables américains, le palais diplomatique se poursuit, puisque cette semaine, il y a eu la visite de Jared Kushner, de Steve Witkoff, de conseiller très proche de Trump, le vice-président que l'on vient d'évoquer, J.D. Vance. Et ce soir, eh bien, on attend en Israël le secrétaire d'État, Marco Rubio. Donc tout se passe comme si les responsables américains les plus haut placés et les plus proches du président lui-même se succédaient pour s'assurer que du côté israélien, tout est fait pour que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza soit respecté, pour que l'on puisse envisager une transition vers les phases ultérieures de la mise en œuvre du plan de paix américain, même si certaines de ces phases ne sont pas du coup d'Israël. En tout cas, certains des aspects de la mise en œuvre de cette phase, notamment l'implication de certains pays dont Israël ne veut pas, parce que ce sont des pays proches du Hamas, comme le Qatar et la Turquie. D'ailleurs, J.D. Vance a eu des propos très ambigus. Nous n'imposerons aucune présence étrangère ou de forces armées étrangères à Israël dans la bande de Gaza, mais la Turquie jouera un rôle, ce qui bien évidemment n'est pas du goût de Jérusalem. Et les responsables américains qui se sont succédés cette semaine ont donc comme objectif d'assurer la mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles du plan de paix américain et peut-être aussi donc de recadrer en quelque sorte les dirigeants israéliens lorsque certaines initiatives, comme celle du vote à la Knesset sur l'annexion d'une partie de la Judée-Samarie, vont dans un sens contraire manifestement aux intérêts américains. Certains observateurs en Israël considèrent que cette semaine a montré à quel point Israël obéissait en quelque sorte au doigt et à l'œil de l'administration américaine et du président Donald Trump.
Même un long papier dans le journal Israël Hayom, Israël, selon le journal, est revenu à 1948, l'époque où c'est impossible de dire non à l'Amérique. Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un de nos correspondants à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Frappe israélienne au Liban contre un camp d'entraînement et un site de production de missiles du Hezbollah. Dans la région de la Beka notamment, et je vous le disais en titre, selon plusieurs sources sécuritaires, le Hezbollah a repris la production de missiles de précision et de longue portée, mais cette production est désormais concentrée au nord du fleuve Litani, c'est-à-dire plus éloignée de la frontière israélienne qu'elle ne l'était avant la guerre du 7 octobre. Après l'avis de la Cour internationale de justice, Israël confirme l'UNRWA ne retournera pas à Gaza. L'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ne sera plus autorisé à intervenir dans la bande de Gaza, a déclaré un haut responsable israélien à la chaîne Khan. Cette déclaration intervient au lendemain de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice, selon lequel Israël devrait faciliter les opérations de l'ONU à Gaza, y compris de l'UNRWA. Mais vous savez qu'Israël accuse cette agence de l'ONU d'avoir travaillé main dans la main avec le Hamas durant toute la période écoulée, et y compris durant les massacres du 7 octobre. Par exemple, laissant utiliser ses facilités, ses lieux, ses sites, ses hôpitaux pour y transférer des otages, pour permettre à des terroristes de se cacher, ou tout simplement certains membres du Hamas étaient membres de l'UNRWA. Bezalel Smotrich, qui est le ministre israélien des Finances, présente ses excuses à l'Arabie Saoudite. Et oui, il avait affirmé « Les Saoudiens peuvent nous dire ce qu'ils veulent, on va les laisser avec leurs chameaux là-bas dans le désert, et nous on continuera de construire ». On écoute ce qu'avait déclaré de Bezalel Smotrich. C'est très court, concentrez-vous.
Et
l'Arabie Saoudite nous dit normalisation à la place d'un État palestinien. C'est pas grave, on va les laisser dans le désert avec leurs chameaux. Mais nous, on aura un État qui va grandir. Voilà, donc Bezalel Smotrich, si l'Arabie Saoudite nous impose un État palestinien, on les laissera avec leurs chameaux dans le désert. Voilà, là encore, C'est un peu comme Netanyahou et Trump. Smotrich s'est excusé. L'Iran a mis en garde contre toute action militaire après les déclarations du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui a évoqué la crainte d'un possible recours à la force en cas d'échec diplomatique. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ne pas savoir si ses propos revelaient de l'inquiétude ou de la menace. C'est-à-dire, quand Grossi dit « je crains un retour à la force », est-ce qu'il menace ou est-ce que, oui, il craint, il a peur que ça finisse mal, cette histoire. Retour en France avec des sanctions judiciaires contre... Raphaël Uzan nous a rejoint dans le studio. Des sanctions judiciaires contre le...
L'abattage de l'arbre, dit l'analyse.
On vous écoute.
Alors concrètement, hein, Bernard, hein, c'est un acte qui a été qualifié à l'époque de par François Bayrou de haine antisémite. La justice n'a toutefois pas retenu dans ce procès le caractère antisémite, car la justice estime qu'il n'y avait pas assez de preuves. Une décision donc qui a créé une vive polémique et suscité une cascade de commentaires. Cette décision de justice est un scandale, estime Émilie Fraîche, présidente du prix Ilan Halimi. Il paraît qu'on ne peut pas commenter les décisions de justice, alors on se tait pour Rachel Kahn, ou encore la cécité de cette justice est renversante pour Charlotte Rocher. A noter que la procureure avait de son côté réclamé 12 et 15 mois de prison, assurant que les deux hommes avaient porté atteinte à la mémoire d'Ilan Halimi parce que c'est un symbole. Alors pour rappel, hein, Bernard, hein, la justice, elle, a donc condamné donc, à 8 mois de prison ferme un des auteurs, l'autre à 8 mois de prison avec sursis. Donc dans le téléphone d'un des deux hommes, une vidéo de son frère jouant avec une tronçonneuse à proximité de la stèle et de l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi avait été retrouvée 3 jours avant l'abattage. Puis les deux frères avaient été interpellés quelques jours après les faits. Leurs ADN avaient été prélevés sur des morceaux de pastèque retrouvés autour du tronc coupé. Les enquêteurs avaient donc révélé que la pastèque était le symbole de la Palestine. Alors, au cours de l'audience, maître Alain Jakubowicz, qui plaidait pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, avait dénoncé un attentat contre la mort, un assassinat post-mortem, estimant « c'est lourd de symbolique cette volonté de gommer jusqu'à la mort au-delà de la mort ».
Merci Raphaël, un peu de sourire et de soleil dans ce journal avec des nouvelles qui ne sont pas toujours très joyeuses. L'ancien otage Elia Cohen, qui a été détenu à Gaza pendant plus de 500 jours, a demandé en mariage sa compagne Ziv Aboud. Elle aussi est une survivante du festival Nova. Pendant toute sa détention, Elia Cohen croyait que sa compagne avait été tuée le 7 octobre et non. C'est le jour de sa libération qu'on lui a appris qu'elle était toujours vivante. Et évidemment, on a envie de dire, il l'a demandé en mariage, c'était hier. Voilà, l'ex-otage Elia Cohen va pouvoir épouser Ziv Aboud, je vous rassure, elle a dit oui, on a vu les images, c'était sur le bord de mer en Israël.